Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Après Piotr Pawlenski, c'est sa compagne qui est en garde à vue, soupçonnée d'avoir participé à la diffusion de la vidéo qui a poussé Benjamin Griveaux à abandonner les municipales. On fait le point sur l'enquête, on entendra également les militants marcheurs un peu désabusés. Le coronavirus avec de nouvelles contaminations à bord de ce bateau de croisière au large du Japon. La quarantaine est-elle pertinente dans ces cas-là alors que les États-Unis comptent ramener leurs ressortissants ? Un médecin nous répondra. Il y a un an, Donald Trump lançait la procédure d'urgence nationale afin de débloquer des fonds pour ériger son mur anti-migrants. Où en est-on aujourd'hui ? Réponse avec le droit de suite de France Inter. Nous serons également en Australie. Les scientifiques font le bilan des incendies dantesques sur la faune et c'est plutôt inquiétant, vous le verrez. Et puis le sport, sacré défi pour les Bleus aux Mondiaux de biathlon avec la poursuite. La première française part avec 50 secondes de retard. Nous serons en Italie dans quelques minutes.
France Inter.
Les choses n'ont donc pas traîné. Deux arrestations suite à la diffusion de la vidéo intime de Benjamin Griveaux. Celle de l'activiste russe Piotr Pawlenski hier et puis celle ce matin de sa compagne qui est entendue au sujet de cette fameuse vidéo, Ariane Grissel.
Oui, elle a aussi été placée en garde à vue hier à Paris et est entendue pour atteinte à l'intimité de la vie privée et surtout pour diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel. Une enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Il s'agit de savoir comment cette femme a eu accès aux images, si c'est elle qui en était destinataire à l'origine et de comprendre ce qui s'est passé après, savoir surtout si son téléphone a été piraté ou si elle a sciemment transmis les vidéos mises en ligne sur le site de son compagnon qui lui revendique leur diffusion.
On l'a dit Ariane, Piotr Pawlenski, lui, est toujours interrogé.
Oui, ça y est, il est désormais en garde à vue pour les mêmes motifs que sa compagne, donc explicitement pour cette affaire de vidéo. On rappelle qu'il a été interpellé hier dans le cadre d'une autre enquête pour des violences à Paris la nuit du Nouvel An, dossier qui n'avait donc rien à voir. Il était recherché depuis janvier. Évidemment, l'accélération subite de cette enquête n'est pas un hasard. Les enquêteurs vont aussi interroger Piotr Pawlenski pour la diffusion des vidéos. Pour faire simple, la garde à vue dure 48 heures maximum et les deux dossiers peuvent être traités dans cet intervalle aux enquêteurs de voir comment ils répartissent le temps d'interrogatoire. Piotr Pawlenski assume cette diffusion. L'objet de l'enquête est donc surtout de savoir comment il a eu accès aux images, sachant que la peine encourue est la même pour le diffuseur que pour ses éventuels complices. Le fait de rendre public de telles vidéos est passible de 2 ans de prison, 60 000 euros d'amende.
Les précisions d'Ariane Grissel du service police justice de France Inter. En attendant, La République En Marche est toujours en pleine turbulence. La seule certitude, c'est que le nom de celui ou celle qui reprendra les rênes sera annoncé au plus tard demain lundi. Quelqu'un d'opérationnel qui fait consensus et qui a envie, précise Marie-Laure Harel, porte-parole de la campagne. Les militants, eux, reviennent timidement sur le terrain et essaye tant bien que mal de se remonter le moral. Cyril Graziani les a rencontrés ce matin dans le 11e arrondissement de Paris.
Alors, tout le monde prend des gants.
Après la gueule de bois, la détox, les marcheurs ont enfilé leurs baskets pour un clean run, un nettoyage des rues de Paris en courant, même si...
Avec ce qui vient de se passer avec Benjamin Griveaux, aujourd'hui j'ai pris des sacs noirs. Ça symbolise le deuil. Même si les marcheurs doivent faire le deuil d'un leader.
Anne-Laure, les yeux embués, ne pèse pas vraiment ses mots.
Tout simplement. Ça fait 2 ans qu'on travaille. On n'est pas juste des politicards à 2 balles. Ok, il est mort au combat, donc j'ai pris des sacs poubelles noires. Voilà, c'est un clin d'œil qui est tout à fait silencieux et qui est entre nous.
Tenue de running, la tête de liste de La République En Marche dans le 11e, Guillaume Poitou a décidé de reprendre le combat sans savoir qui portera ce soir ou demain les couleurs de son camp.
On est en attente d'une nouvelle tête de liste, ça ne change rien à notre mobilisation. Tous mes colistiers sont restés sur le bateau et on continue nos actions de terrain, voilà, dans l'attente de cette nouvelle nomination. Qui ne change rien notre programme, qui ne change rien notre projet qu'on a construit depuis 2 ans.
Bonjour monsieur.
En marche arrière. Hein.
À la fin du jogging, place de la Bastille, cette fois rencontre avec les électeurs.
Moi je suis un adhérent de la première heure, mais...
Et pourquoi ?
On est un peu déçus, on n'aimerait pas avoir ce genre de choses.
Vous parlez de quoi ? De Benjamin Griveaux ?
Entre autres.
C'est arrivé à Benjamin Griveaux, c'est sa vie privée. Ça aurait jamais dû être mis sur la place publique.
Les marcheurs tentent de se défendre, mais cette affaire Griveaux, très clairement, n'a pas fini de leur coller à la peau.
Un reportage Cyril Graziani pour France Inter dans les rues de Paris. 10 000 foyers toujours sans électricité ce midi en France. Conséquence de la tempête Dennis, principalement sur la Bretagne et notamment le Finistère et puis le Nord-Pas-de-Calais. Le coronavirus, avec un bilan toujours en hausse, il approche désormais les 1700 morts en Chine. Le nombre de contaminations qui augmente aussi quasi quotidiennement à bord de ce paquebot, le Diamond Princess, placé en quarantaine au large du Japon. À son bord, 3700 passagers et membres d'équipage. Le nombre de cas positifs est encore une fois revu à la hausse, 355 personnes contaminées. On pourrait se poser la question sur la pertinence d'une mise en quarantaine à bord d'un paquebot truffé de ventilation. Je vous propose d'écouter la réponse d'Arnaud Fontanet, il est épidémiologiste à l'Institut Pasteur.
Ce sont des espaces confinés, les bateaux, donc on peut tout à fait imaginer que effectivement les transmissions y soient plus faciles. Je pense pas que la circulation de l'air comme ça ait pu contribuer. Je crois que c'est plus des contacts. Ce qui s'est passé finalement, c'est que le passager qui était contaminé a été débarqué le 25 janvier. Or, le bateau a été mis en quarantaine le 4 février, ça fait presque 10 jours. On devine qu'il y a déjà eu des transmissions secondaires qui avaient eu lieu et maintenant ils sont pris dans un cycle infernal où les personnes qui avaient été infectées initialement en ont infecté d'autres et le cycle se répète avec plus de 350 personnes infectées aujourd'hui. Donc effectivement, s'il avait été possible dès le départ de débarquer tout le monde et se mettre dans des conditions de confinement qui permettent de limiter l'épidémie, ça aurait été la meilleure solution. J'imagine que pour des raisons logistiques, ça n'a pas été possible et que maintenant, ils sont vraiment dans une situation très difficile à gérer.
Et la fin de la quarantaine est normalement prévue pour mercredi, mais pourrait être prolongée. À l'étranger, toujours, l'ambassade américaine de Bagdad de nouveau visée. Trois roquettes ont été lancées cette nuit à proximité sans faire de victimes. C'est la 19e attaque de ce genre en près de 4 mois, toujours aucune revendication. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo est à Dakar, au Sénégal. C'est la première fois qu'il se rend en Afrique subsaharienne. 2 ans après les propos extrêmement grossiers de Donald Trump qui avait qualifié plusieurs États africains de pays de merde, Mike Pompeo tentera de rétablir la confiance, d'autant que Washington a annoncé un désengagement de ses forces dans la région, William Delesseux.
Mike Pompeo est très attendu au Sénégal. Officiellement, il s'agit de célébrer 60 ans de relations bilatérales avec les États-Unis, un partenaire historique du pays. Dans les faits, les diplomates sénégalais de la sous-région attendent des précisions au sujet de l'engagement de l'armée américaine dans la zone. La semaine dernière, le Pentagone a annoncé des coupes budgétaires en Afrique pour se concentrer sur d'autres pays. De quoi susciter des inquiétudes. 7000 soldats américains stationnent sur le continent. Il y a aussi l'opération Barkhane menée par la France qui compte sur l'appui logistique indispensable des Américains contre les djihadistes au Sahel. Un tel départ serait catastrophique, disent tous les spécialistes. Reste à savoir si Mike Pompeo dissipera ou confirmera ses inquiétudes. Le secrétaire d'État américain donnera une conférence de presse ce dimanche après avoir été reçu par le président sénégalais. Dakar, William Delesseux, France Inter.
13h08 sur France Inter. Il y a un an, jour pour jour, Donald Trump décrétait l'urgence nationale aux États-Unis afin d'avoir l'argent nécessaire à la construction de son mur anti-migrants à la frontière mexicaine, souvenez-vous.
Nous combattons dans des guerres à 10 000 km de chez nous. Mais nous ne contrôlons pas notre propre frontière. Donc je vais signer l'urgence nationale. Ça a déjà été signé plein de fois auparavant. Ça a été signé par d'autres présidents depuis 1977 ou environ. Ça a rarement posé problème. On parle de l'invasion de notre pays avec des drogues, avec des trafiquants d'êtres humains, avec tous les types de criminels et des gangs.
Les mots extrêmement durs du président américain à l'époque, ce mur c'était une promesse de campagne. Sébastien Sabiron, pourquoi Donald Trump a-t-il enclenché cette procédure exceptionnelle qu'il a renouvelé d'ailleurs cette semaine?
Eh bien, c'est un coup de billard à trois bandes dans le bras de fer qui l'oppose aux démocrates au Congrès. À l'époque, souvenez-vous, les États-Unis viennent de vivre le plus long shutdown de leur histoire, 35 jours de blocage partiel des administrations, faute d'accord au Congrès sur le budget. Donald Trump réclamait 5 milliards de dollars pour la construction de son mur, c'est non pour les démocrates. Il n'en obtient qu'un quart, un compromis est trouvé, le shutdown écarté. Donald Trump semble vouloir jouer l'apaisement et 15 jours plus tard, coup de théâtre, il décrète cette urgence nationale pour le mur, une procédure d'exception qui l'autorise à contourner le Congrès pour siphonner les fonds fédéraux. À l'époque, les démocrates hurlent à l'abus de pouvoir face à cette procédure réservée, comme son nom l'indique, au vrai cas d'urgence. George W. Bush après le 11 septembre, Barack Obama lors de l'épidémie de grippe H1N1 ou encore Jimmy Carter après la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. En décrétant que l'immigration illégale relève de l'urgence nationale, Donald Trump peut aussi puiser dans les ressources du ministère de la Défense. Le Pentagone vient tout juste d'allouer 3,8 milliards de dollars supplémentaires à la construction du mur jugé prioritaire. Tant pis pour les drones, les avions furtifs et les avions cargo qui devaient initialement être achetés. Au final, Donald Trump respectera-t-il sa promesse de campagne? Pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que son mur est bien parti pour devenir le mur le plus cher du monde.
Explication Sébastien Sabiron. Justement, on va prolonger cette discussion. Où en est-on aujourd'hui à quelques mois de la présidentielle américaine? C'est le droit de suite de France Inter et pour nous éclairer, nous accueillons Jean-Éric Brana. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Assas, chercheur à l'IRIS. Déjà, ce mur, à l'heure où on se parle, il en est où? Combien de kilomètres érigés?
Je ne parlerai pas en kilomètres, puisque en fait, il n'y a eu aucun kilomètre de construit. Il y a un certain nombre de contrats qui ont été passés avec des entreprises, mais tous ceux qui ont été mis en œuvre, pour l'instant, sont des travaux de consolidation.
Donc des murs qui existaient déjà,
En réalité, les contrats qui concernent des nouvelles portions du mur ne sont pas commencés. Aucune d'entre elles, on peut même pas dire quelques kilomètres, il n'y en a pas. Il y a zéro kilomètre qui a été construit. Les quelques kilomètres qui pourraient l'être le seraient qu'à la fin de procédures en justice qui ont été lancées par des associations locales et surtout par les propriétaires des terres que le gouvernement américain convoite. Parce que si ça n'a pas été construit avant, c'est tout simplement parce que ces terres-là n'étaient pas disponibles pour le gouvernement américain ou qu'elles poser des problèmes, par exemple environnemental. On comprend bien que faire un mur le long du Rio Grande pose d'énormes problèmes, notamment pour la faune et la flore. Donc tout cela pose toujours les mêmes problèmes quelques années plus tard, bien évidemment.
Cela veut dire, Jean-Éric Brana, que c'est un échec pour Donald Trump?
Alors c'est un semi-échec en réalité parce que on voit que c'est passé par pertes et profits dans toute sa rhétorique et que le promesse tenue devrait d'abord s'adresser à ce mur puisque c'était la promesse phare qu'on a le plus entendue. Souvenez-vous, il a commencé sa campagne le 15 juin 2015 en disant « je vais construire un mur parce qu'il y a des voleurs et des violeurs qui arrivent du Mexique et d'ailleurs c'est les Mexicains qui vont le payer ». Cette promesse-là, ce n'est pas tenu. Il y en a d'autres qui le sont, sur lesquels il déroule son programme. Et c'est vrai que ces supporters qui ont très bien compris que ce mur ne serait pas construit, aujourd'hui, ne le réclament même plus, même s'ils chantent « construisez le mur » dans les meetings. En réalité, c'est juste un chant pour se galvaniser sans vraiment demander à ce que ce mur soit construit lui-même. En revanche, on peut dire que le mur dans les têtes existe toujours. Mm-hmm. Et Donald Trump vient d'ailleurs de lancer cette semaine une grande opération pour que les polices des frontières interviennent dans ce qu'on appelle les villes sanctuaires pour essayer de capturer des gens qui sont illégaux et qui vivent dans ces villes-là et les renvoyer dans leur pays.
Jean-Éric Brindas, ça veut dire que c'est toujours un enjeu de campagne pour Donald Trump, ce mur? C'est peut-être plus de la communication que des actes?
Bien sûr, c'est toujours un enjeu de campagne parce que, quelque part, il va être obligé de le remettre sur la table et d'expliquer qu'il faut faire quelque chose. Il va falloir qu'il lance ces contrats qui manquent et qu'il commence à construire quelques kilomètres de murs, ne serait-ce que parce que pour la photo, il va bien falloir qu'il se trouve à côté de nouveaux pans de murs qui s'appelleront Mur Trump et qui seront sortis de terre sous quelques miles durant sa présidence.
Et des murs dans quel état? Il y a quelques jours, Jean-Éric Brana, il y a une vidéo qui a circulé sur Internet d'un mur en acier qui s'était effondré symboliquement sur des arbres qui le retenaient. Ces arbres étaient du côté de la frontière mexicaine. Est-ce que ça peut poser problème à Donald Trump dans sa campagne?
Pas plus que le reste. Je vous dis, ses supporters ont passé par perte et fracas. Mais justement, cette portion-là est très intéressante parce que c'était une consolidation d'un mur déjà existant qui avait été remplacé par des barres en acier. Et Donald Trump avait expliqué à ce moment-là que puisque les démocrates ne voulait pas de béton, il allait faire de l'acier qui était aussi solide que le béton. Et c'est vrai que symboliquement, c'est cette partie-là qui s'est écroulée.
Rapidement, Jean-Éric Brana, dernière question. Donald Trump, lors de la présentation de son budget, a demandé 2 milliards de dollars pour ce mur. Ça représente quoi? Et qu'est-ce que ça signifie?
Ah mais ça représente rien du tout. Sur un budget qui fait 1400 milliards de dollars, vous voyez bien que ça n'est vraiment rien. C'est surtout très en deçà des 30 milliards qu'il demandait jusqu'à maintenant pour le mur, très en deçà des 8 milliards qu'il a obtenus jusqu'à présent. Ces 2 milliards, il les aura, mais ça n'est encore une fois que pour de la consolidation de l'existant. Avec cela, il sera dans l'incapacité de construire quoi que ce soit. Chaque kilomètre du mur coûte plus de 20 millions. Il faut déjà restaurer les 1000 kilomètres qui existent qui sont existants et les consolider avec 2 milliards, il ne peut absolument rien faire.
Merci beaucoup Jean-Éric Branin, invité du Droit de Suite de France Inter. Vous êtes maître de conférence à Assas et chercheur à l'IRIS.
France Inter, le journal de 13h. Romain Desec.
Traversons le globe à présent et prenons la direction de l'Australie. Tout le monde se souvient de ces gigantesques incendies ces derniers mois qui ont ravagé l'île continent, la flore, mais aussi la faune avec plus d'un milliard d'animaux morts. Et bien justement, des scientifiques australiens ont fait le bilan et il est particulièrement alarmant, Frédéric Tellam.
Le bilan fait par les scientifiques du CSIRO, l'organisme de recherche australien, est très dur pour la faune locale. Certaines espèces ont perdu une très large part de leur habitat dans les incendies de ces mois derniers. Le groupe d'experts estime que 113 espèces nécessitent une attention urgente et parmi elles, certaines emblématiques telles que l'ornithorynque. Tous les animaux sur la liste ont vu au moins 30% de leur environnement détruit par les flammes, avec certaines espèces comme le dunard de Kangaroo Island ou encore le cacatoès noir, qui elles ont vu plus de 95% de leur espace naturel détruit. Au lendemain des incendies, le gouvernement avait débloqué en urgence près de 30 millions d'euros. Mais d'après l'étude du CSIRO, c'est une goutte d'eau pour sauver certaines de ces espèces très spécifiques au pays. Le rapport demande également un renforcement législatif, ce qui, quand on connaît le caractère plutôt climato-sceptique du gouvernement australien, ne semble pas être à l'ordre du jour immédiat. Melbourne, Frédéric Tellam, France Inter.
En France, rien à voir avec ces incendies dantesques, mais vous l'avez constaté sans doute, il fait très doux ce week-end, une douceur même anormale. Jean-Michel Golinski nous disait ce matin que les températures étaient de 10 degrés supérieures aux normales saisonnières. Mais ça peut paraître paradoxal, on peut tout de même skier en haut du ballon d'Alsace grâce aux chutes de neige de cette semaine. Une neige qui fond à vue d'œil, ce qui n'empêche pas les skieurs d'en profiter, Thomas Vichard.
Et pour la plupart, c'est la première sortie ski de la saison.
Ah bah c'est génial, ça fait des mois qu'on attendait, on y est enfin.
Un vrai succès pour Paul.
Je suis même pas tombé.
Mais alors elle est comment cette neige? Julien vient de Montbéliard.
C'est un peu limite, on en a bien profité, fallait venir tôt ce matin, c'est ce qu'on a fait. Maintenant on profite des joies de la neige dehors quoi.
Et justement ça inquiète aussi les pisteurs de la station, comme Vincent Pierret.
On va essayer de conserver un maximum de pistes ouvertes, mais je suis pas 100% confiant.
Mais au Ballon d'Alsace on ne fait pas que du ski, la piste de luge aussi était ouverte.
C'était un peu de la vitesse et du froid.
Patricia est venue en famille faire de la luge depuis Vesoul, le choix du lieu a été fait hier soir.
Vu le plaisir qu'on éprouve, on est déjà en train de dire qu'on revient le week-end prochain s'il y a la neige.
Juste en face, Jean-Paul Claudel loue du matériel de sport d'hiver, il peut souffler.
C'était annulation sur annulation, tous les groupes, les scolaires, tout ça ont tous annulé. Hein. C'est compliqué, il faut se remettre dedans, c'est pas facile parce que d'habitude on commence tout doucement, là on commence sur les chapeaux de roue, mais c'est bien.
En tout, 700 forfaits de ski ont été vendus samedi au Ballon d'Alsace, c'est le record de la saison.
Et de la neige est attendue en début de semaine prochaine. Là-bas, pas de problème de neige, au contraire. À 1600 mètres d'altitude en Italie, à Anterselva, c'est là que se déroulent les mondiaux de biathlon avec les poursuites aujourd'hui, des courses basées sur les écarts entre concurrents réalisés lors des sprints. Amaya Cazenave, vous êtes en Italie pour France Inter. La course féminine a débuté il y a un gros quart d'heure. Première française à s'élancer, c'était Célia Emonier, partie avec 50 secondes de retard. Peut-elle espérer un podium?
Bah c'est mal parti Romain pour un podium pour Célia Emonier qui s'est complètement loupée au tir pour l'instant. Les filles en sont à leur troisième passage sur le stand de tir. Il y en aura quatre au total et les Françaises n'ont pas réglé la mire. On sait qu'elles ont déjà eu des problèmes sur le relais mixte, sur ce stand de tir. On est à 1600 mètres d'altitude. Ici, quand on arrive, eh bien le cœur bat très très vite. Il faut réussir à faire baisser ses pulsations, à essayer d'attraper ses balles et malheureusement pour les Françaises eh bien, c'est mal parti devant en plus les biathlètes mènent un train vraiment d'enfer, c'est Dorothea Wierer et Martha Osbø la Norvégienne qui était partie en leader de cette poursuite qui pour l'instant font quasiment un sans faute en plus d'être impressionnante sur les skis ici sous le soleil d'Anterselva. On espérait beaucoup mieux mais pour l'instant voilà les Françaises elles pouvaient aller chercher un podium au regard de leur départ hein, elles n'avaient que 30 secondes de décalage et puis là voilà Anaïs Bescon par exemple qui se classe en 15e position, ça va être très très difficile, il ne reste plus que 2 km à faire en ski et un passage ici sur le stand de tir.
Merci Amaya Cazenave et on essaiera de se rattraper avec la course homme qui démarre à 15h15 et de grosses chances de médailles pour les Français avec Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade.